Une très belle introduction au thème de ce matin qui est justement l'appel du Seigneur à ne pas craindre, à ne pas vivre avec le cœur dans des soucis. Alors c'est bien évidemment un message qui est même au cœur de l'histoire de Noël et qui est surtout au cœur de la raison de Noël. En Luc 1, verset 30, par exemple, lorsque l'ange parle à Marie en annonçant la naissance de Jésus, l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » En Matthieu, chapitre 1, lorsque l'ange rassure Joseph concernant la grossesse de Marie, il lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » En Luc, chapitre 2, verset 10, lorsque les anges annoncent la naissance de Jésus aux bergers, l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et en Luc, chapitre 1, versets 68 à 74, cette réaction à l'annonce, aux annonces concernant la venue de Jésus, nous lisons « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Alors, dans ce thème de ne pas craindre, nous allons faire une lecture qui est plutôt longue, certes, mais autant édifiante que longue. Donc nous allons lire Luc, chapitre 12, dans sa totalité. Sur ces entrefaites, Jean s'étant rassemblé par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux au-dessous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui offrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment. Sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. » Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. À plusieurs reprises dans ce passage, le Seigneur dit donc à ses disciples que nous n'avons pas besoin de craindre, de vivre dans les soucis. Néanmoins, dans le monde actuel, on n'a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des incitations à la crainte, des sujets qui mettent les gens dans la peur et dans les soucis. On vit à une époque où la crainte est très présente dans la société. On vit dans un monde où les gens se trouvent dans le désordre, le dérangement, la confusion et du coup la crainte. Il semble que cette année même, le foot a du mal à détourner les pensées des sujets d'inquiétude, de division, de soucis. Les gens se font des soucis à cause des multiples épidémies d'une chose puis de l'autre qui s'ensuivent. Ils se font des soucis à cause de la crise économique un peu partout. Ils se font des soucis à cause des effets sur nos économies de la guerre en Ukraine et puis des autres éléments liés à la guerre. Et si on pense, il n'y a que peut-être 2 semaines en arrière, les craintes de l'élargissement de cette guerre au-delà des frontières de l'Ukraine et de la Russie. On dit que beaucoup de jeunes vivent constamment dans le stress et dans les soucis à cause de ce qu'ils ont appris sur la situation écologique. Alors ce matin, on n'est pas là pour dire que rien de tout ça n'est important, rien de tout cela ne peut être grave. Par contre, ce que nous voyons dans la bonne nouvelle de l'Évangile, dans ce message de Jésus, c'est que même si ces choses existent, grâce à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, nous qui avons mis notre confiance en lui, comme on a chanté tout à l'heure, nous n'avons pas besoin ou plus besoin de vivre dans ce stress, de vivre dans ces craintes, de vivre dans ces soucis. Jésus nous dit dans le verset 30 que finalement, vivre dans ce stress, c'est le sort des païens de ce monde. Ça ne doit pas nous surprendre si le monde vit dans un stress et dans des soucis, dans des craintes. Parce que dans le verset 30, par exemple, Jésus dit « Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. » C'est normal, dit Jésus, que les gens du monde vivent dans un stress lié à ces soucis, à ces inquiétudes. Nous, par contre, il dit en tant que ses disciples, nous n'avons pas besoin de vivre constamment dans ce stress et ces soucis. Comme il disait au prophète Ésaïe dans Ésaïe 8, verset 12. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Ne soyez pas effrayés. Chez nous, il y a quelque chose de différent qui nous permet de vivre les mêmes situations, mais avec une paix qui découle de notre relation avec le Seigneur, sans ses soucis, sans ses stress, d'où plusieurs impératifs du Seigneur dans ce passage, dans ce chapitre que nous venons de lire ensemble. Verset 4, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas. » Verset 7, « Ne craignez donc point. » Verset 22, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. » Verset 29, « Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. » Verset 32, « Ne crains point, petit troupeau. » Alors si on dit que souvent, si le Seigneur nous répète le même message, c'est que vraiment, il veut nous communiquer quelque chose, là, rien que dans ce chapitre-là, nous trouvons à X reprises, donc, le Seigneur qui nous dit, en tant que ses disciples, « Petit troupeau, ne crains point. » Mais on voit dans ce passage que ces impératifs sont souvent accompagnés par la raison pour laquelle nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur nous explique pourquoi nous pouvons échapper à ces soucis qui sont le lot normal du monde dans lequel nous vivons. Justement, dans ce verset 30, s'il dit que nous n'avons pas à être inquiets pour les choses de la vie, il dit « car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. » Ce qui change la donne, c'est le fait que nous sommes en relation avec le Seigneur, et lui, il sait. Et lui, il prend soin de nous. La confiance liée à la foi chrétienne, cette confiance qui nous permet d'échapper aux soucis, de ne pas vivre dans la crainte, n'est pas basée sur une attitude, on pourrait dire, d'autruche, où on fait mine que ces problèmes n'existent pas, où ces choses ne sont pas là. Ce n'est pas basé non plus dans une espèce de pensée positive où on dit « je refuse que cela existe dans ma vie et si je refuse, pouf, comme par magie, tout problème va disparaître de ma vie ». Notre confiance, nous montre le Seigneur dans ce passage, est fondée non pas en nous, mais dans le caractère de notre Dieu, dans le caractère du Seigneur, dans la fidélité, dans l'amour de notre Dieu, de notre Père, et de ce que lui, il a fait, et de ce que lui nous a promis en Jésus-Christ. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et puis par la suite de ce passage, il va lister toutes sortes de bénédictions que nous avons reçues de la part de Dieu en disant « En lui, en Jésus-Christ, nous avons reçu. Dieu nous a donné. Dieu a fait ceci. » Nous pouvons donc répondre positivement à ces impératifs du Seigneur. « Ne crains pas, ne t'inquiète pas, ne fais pas de soucis. » Parce que nous connaissons notre Seigneur, et que notre vie lui appartient. Dieu est devenu notre roi. Il nous a invités à entrer dans son royaume. D'ailleurs, la Bible nous dit que si nous mettons notre confiance en Jésus, Dieu nous transfère de ce monde actuel où finalement les soucis, les inquiétudes de la vie sont tout à fait normales. Il nous a transférés de ce monde et nous a placés dans le royaume de Jésus-Christ. pour devenir notre roi, roi du royaume dans lequel nous vivons. Verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il ne donne pas juste un commandement en disant « Oh, mais ne crains point !» Il dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il est devenu notre roi. Jésus souligne dans le même passage, il est devenu notre Père. Verset 29 et 30, donc ne soyez pas inquiets au sujet de la vie. Pourquoi? Car votre Père sait que vous en avez besoin. Il ne dit pas, bon, de toute façon, vous, en tant que chrétien, ben, vous pouvez vivre sans. Il dit, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin et est prêt à s'en occuper. La Bible nous dit, comme nous venons de nous le rappeler à travers la Sainte Cène, que Jésus, en venant sur la terre pour mourir à notre place, est devenu notre Rédempteur. Cette notion de rédemption, c'est le rachat de quelque chose. Donc le Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, si nous mettons notre confiance en lui, il a racheté notre vie. Il a racheté les droits sur notre vie. Donc, dorénavant, notre vie lui appartient. L'apôtre Paul qui dit, ma vie ne m'appartient plus. Maintenant, ma vie appartient à Jésus-Christ. C'est assez facile à dire lorsqu'il s'agit juste d'une doctrine vague, mais parfois, on ne pense pas à toutes les ramifications de ce que cela veut dire. Ma vie appartient dorénavant à Jésus-Christ, parce qu'il a racheté les droits. Pour les gens, les premiers chrétiens de l'époque du Nouveau Testament, cette notion était tout à fait concrète dans leur tête, parce qu'ils avaient l'habitude des esclaves. Il y avait une très grande population d'esclaves dans le monde romain de l'époque, et le rachat, c'était le fait de racheter le droit sur la vie d'une personne. Jésus-Christ a racheté les droits sur ma vie, donc ma vie maintenant appartient à lui. Pour ça, Paul pouvait s'appeler esclave de Jésus-Christ, parce que Christ avait acheté sa vie. Donc, dorénavant, Jésus-Christ avait tous les droits sur sa vie. Jésus-Christ était le propriétaire de sa vie. Si nous venons à Jésus-Christ, si nous mettons notre confiance à lui, il achète tous les droits sur notre vie, mais aussi toutes les responsabilités sur notre vie. Si ma vie est à lui maintenant, je peux donc être tranquille parce que ce qui se fait de ma vie ne m'appartient plus. C'est à lui. C'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui donne ce qu'il faut. Parce que c'est à lui. Si vous vous promenez dans la rue, vous pouvez voir plein de belles voitures garées le long de la route. Vous n'allez pas vous arrêter à chacune pour faire le plein, pour les laver, pour les bichonner, pour les polir. Par contre, si cette voiture vous appartient, là, effectivement, vous faites le plein. Vous le lavez. Vous le bichonnez, vous le polissez parce que ça vous appartient. Les autres ne vous appartenaient pas. Donc, si la personne en prend soin ou pas, ce n'est pas votre affaire. Mais vous vous investissez dans ce qui vous appartient. Le Seigneur, c'est pareil. Romains chapitre 8, verset 32, dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» C'est l'apôtre Pierre qui dit que Dieu a racheté nos vies, non pas avec des choses qui sont périssables, comme de l'argent ou de l'or, mais avec quelque chose qui a une valeur énormément plus grande, le sang de son propre fils. Et donc, s'il a investi tant dans notre vie, le Seigneur nous dit, vous pouvez me faire confiance pour le reste. Je ne vais pas investir autant et puis simplement ne peux plus m'en occuper après. Cela ne veut pas dire qu'on va toujours rouler sur l'or et avoir tous nos souhaits et tous nos rêves, mais le Seigneur est prêt à prendre soin de nos vies et cela change complètement la donne et enlève de nous la responsabilité qui pèserait sur nos épaules, qui créerait ses soucis et ses craintes, parce que nous pouvons nous tourner vers lui. Romains 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Plus besoin donc de vivre dans la crainte, parce que nous savons que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de notre Père, et que nous pouvons donc faire confiance à notre Père pour notre vie. On pourrait soit passer un temps fou et dépenser une énergie folle à se faire des soucis, à chercher tout le temps à cogiter sur ces choses, où nous pouvons choisir de faire confiance au Seigneur, que lui s'en occupera. Lorsque nous étions à l'école biblique, une fois on a reçu la visite d'un missionnaire âgé qui, pendant longtemps, était responsable d'une imprimerie chrétienne en Afrique du Sud, qui produisait des livres chrétiens pour l'église en Afrique et qui disait que, ben, financièrement, ce n'était pas toujours facile d'être chef d'une imprimerie chrétienne. Mais il disait que ben, les jours où il se rendait compte qu'il y avait d'énormes défis financiers devant eux, il a dit, ben, le matin, je me levais, je préparais ma tasse de thé, puis je m'enfermais dans mon bureau et je discutais avec le PDG. En lui disant, c'est toi le PDG. Donc cette entreprise est à toi. Donc nos problèmes, ce sont tes problèmes. Moi, je suis là pour mettre en pratique tes décisions, mais c'est à toi de trouver des solutions, car c'est toi le PDG de cette entreprise. En tant que chrétien, nous pouvons agir de la même manière pour nos vies. Seigneur, tu as racheté ma vie. Ma vie n'est plus à moi, c'est à toi. Donc c'est à toi de trouver la solution. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu vas faire. Je suis simplement là pour faire ce que tu me dis. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Et puis je te fais confiance pour le reste. Quelle paix on peut connaître lorsqu'on est enfant de Dieu. Petit troupeau, ne crains point. Ne soyez pas inquiets, car votre Père sait. Donc, pas surprenant que Jésus alors dit, mais cherchez plutôt le royaume de Dieu. Que cela soit votre souci principal, parce que si vous êtes dans ce royaume, alors le reste, vous pouvez remettre à votre roi. Comme disait Rachel tout à l'heure, nous pouvons nous tourner vers lui et dire, ben, Seigneur, c'est ton problème. C'est à toi de trouver la solution et moi, je mettrai ta solution en pratique. Jésus donc nous dit que nous n'avons pas à craindre, et il nous explique pourquoi nous n'avons rien à craindre. Par contre, quand on regarde le troisième point, on pourrait imaginer qu'il y a une contradiction. Parce qu'en même temps, Jésus parle du seul que nous devons craindre. On se dit, mais je croyais que je n'avais rien à craindre. Par contre, ce que Jésus explique dans ce chapitre nous montre qu'il n'y a aucune contradiction. C'est lorsque nous craignons le seul que nous devons craindre que nous n'avons rien à craindre. La Bible souligne tout au long de son message l'importance de craindre Dieu. Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Dans ce chapitre 12 de Luc, Jésus souligne le même message. La crainte de Dieu, c'est la reconnaissance finalement de qui il est. Quand il parle de la crainte de l'Éternel, de craindre l'Éternel, c'est reconnaître qui est Dieu vraiment. Reconnaître que Dieu est Dieu. Verset 5, Jésus dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. » Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. On reconnaît donc que Dieu a tout pouvoir sur la vie et sur la mort. Et que donc, sans sa grâce en Jésus-Christ envers nous, il pourrait, avec toute justice, me condamner en enfer à cause de mon péché, c'est-à-dire à cause de mon comportement. Si Jésus n'était pas mort à ma place, si Jésus n'avait pas versé le sang dont nous nous sommes souvenus au moment de la Sainte Cène, Dieu pourrait, sans hésitation, m'envoyer en enfer à cause de mon comportement. C'est uniquement parce qu'il me fait grâce en Jésus-Christ que j'y échappe. Craindre l'Éternel, c'est donc reconnaître son pouvoir, reconnaître sa justice, reconnaître l'étendue de ce qu'il pourrait faire. Pour ça que donc en Matthieu 6, 33, dans l'autre version de ce passage, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Il nous invite à chercher sa justice. Justice que finalement, la Bible nous dit, nous ne pouvons trouver qu'en Jésus-Christ. Mais justice qui aura aussi des conséquences sur notre vie. Parce qu'on reçoit la justice de Dieu en Jésus-Christ par la foi lorsque on vient à lui en repentant de nos péchés. C'est-à-dire en reconnaissant que ses définitions du péché sont justes, en reconnaissant que tel comportement n'est pas juste à ses yeux, en reconnaissant, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses me délivrer de ce péché qui t'offense. Craindre Dieu, c'est prendre donc sa parole au sérieux et reconnaître que j'ai besoin d'être couvert par le sang de Jésus pour être juste, mais reconnaître aussi que donc Dieu va revenir pour établir son royaume et pour juger le péché. La fin de ce chapitre parle de ce retour du Seigneur Jésus et du fait que cette crainte de Dieu, cette crainte qui reconnaît les exigences de la justice de Dieu vont se réaliser ce jour-là et imposent sur ma vie le fait de me mettre d'accord avec lui et d'être prêt pour le jour où il va revenir, de m'accrocher au Seigneur Jésus jusqu'au bout, parce que je reconnais que sans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, sans le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu pourrait très bien m'envoyer en enfer le jour où il reviendra. Il parle de ses deux serviteurs. L'un qui vit pour être juste au jour où Jésus-Christ reviendra et qui est récompensé pour cela. Et l'autre qui se dit, oh, bah, finalement, bah, ça y est, c'est bon, j'ai eu mon passe pour le ciel. Donc maintenant, j'ai plus besoin du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, la grâce de Dieu en Jésus, c'est plus que juste quelque chose qu'on prenne à un moment donné et puis on le classe quelque part dans nos affaires en disant « bon, ben, je reprendrai cela le moment venu ». Nous avons besoin quotidiennement de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Besoin quotidiennement d'être couvert par le sang de Jésus pour être juste aux yeux de Dieu. Parce qu'en plus, nous dit le Seigneur, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra et vous redemandera des comptes. Mais si je prends sa parole au sérieux, si je cherche son royaume, si je cherche sa justice offerte en Jésus-Christ, alors je peux connaître sa paix. Parce que je suis en train de vivre dans son royaume, avec mon roi, avec mon père, qui sait ce dont j'ai besoin, qui a tout pouvoir, toute autorité, et qui peut faire même au-delà de tout ce que moi j'imagine. Du coup, si je crains Dieu, alors effectivement, je n'ai rien à craindre. Parce que je crains celui qui a toute autorité et tout pouvoir. Alors ce matin, petit troupeau, ne crains pas, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.